C'est l'heure du journal présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Alice, bonjour à toutes et à tous. Et maintenant, même si le flou demeure sur les conditions véritables d'un accord de paix durable entre Moscou et Kiev, les avancées diplomatiques à l'issue de la rencontre commune organisée hier à Washington sont indéniables. Faut-il en déduire qu'Américains et Européens seraient à nouveau à l'unisson? La coalition des volontaires alliés de Kiev se réunit en ce moment même pour discuter déjà des prochaines étapes. Après plus de 22 mois de guerre, Israël n'a toujours pas répondu à la nouvelle proposition. Position des médiateurs sur une trêve dans la bande de Gaza. On s'interrogera sur les raisons de ce silence. L'actualité également en France, c'est aujourd'hui que le tribunal de Versailles doit examiner l'offre de reprise du fabricant de cœurs artificiels Carmat en redressement judiciaire. Une journée cruciale. Et notamment, on l'entendra pour tous les malades dans l'attente d'une transplantation. Enfin, à moins de 15 jours de la rentrée scolaire, certains d'entre vous n'ont peut-être pas encore accompli leur rituel, parcourir les rayons à la recherche des fournitures. Mais bonne nouvelle, cette année, les prix ont baissé. Après s'être entretenu par téléphone avec chacun des belligérants, après avoir organisé des rencontres bilatérales séparées avec les délégations de chacun des deux camps, après avoir rencontré personnellement et tour à tour Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, Donald Trump a fini visiblement par se rendre à l'évidence. Pour parvenir à un accord et à un traité de paix, quoi de mieux qu'une entrevue conjointe, cette fois-ci avec tous les participants au conflit. Le président américain l'a annoncé hier, il va commencer les préparatifs d'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce qui a bien pu infléchir la position de Donald Trump, lui qui a toujours semblé prêt jusqu'à présent à faire plutôt droit à la plupart des demandes de Moscou ? Est-ce le choix du président ukrainien de renoncer à son habituelle tenue d'inspiration militaire pour une mise plus formelle qui a mis, c'est vrai, le président américain d'excellente humeur, à moins que la venue du président finlandais, pressenti comme l'homme providentiel de ce sommet, le nouveau meilleur ami de Donald Trump, comme le qualifie la presse américaine, n'ait permis de faire la différence. Ou bien peut-être le milliardaire républicain s'est-il tout simplement laissé guider par son rêve, à peine secret, de décrocher un éventuel prix Nobel de la paix, ou plus probablement le rappel de la force collective de l'Europe venu épauler un Volodymyr Zelensky dos au mur a-t-il été décisif. Quoi qu'il en soit, et même si chacun semble plutôt satisfait, en réalité les résultats concrets de ces 3 heures de discussion dans le bureau ovale ne sont pas encore parfaitement clairs. On a le sentiment que le locataire de la Maison Blanche a décidé de ne pas s'enliser totalement dans l'ornière tracée jusqu'ici par le chef du Kremlin, mais ce serait là Justine Leblanc faire bien trop peu de cas de l'imprévisibilité de Donald Trump d'une part, comme de l'inflexibilité de Vladimir Poutine d'autre part.
On peut se demander si Vladimir Poutine tente de gagner du temps avec les militaires ukrainiens fatigués sur le terrain. Mais aujourd'hui, la Russie contrôle 18% du territoire ukrainien, soit bien moins que ce qu'elle espérait au début de la guerre, à savoir prendre le contrôle de tout le territoire. Pas sûr que le président russe puisse aller au-delà avec plus de temps, selon Bertrand Badi, spécialiste des relations internationales.
La Russie fait face à des difficultés économiques réelles, à un épuisement social et finalement... Il n'est pas dit qu'en s'entêtant dans une guerre qui l'épuise, Poutine ait des chances d'aller au-delà de ce qui est déjà une semi-défaite.
Jusqu'ici, Vladimir Poutine a toujours refusé de rencontrer Volodymyr Zelensky. Et en attendant, les bombardements continuent en Ukraine encore cette nuit pendant que les Européens étaient à Washington. Les Européens qui demandent à ce que le président américain prenne part aux garanties de sécurité que veut mettre en place la coalition des volontaires européens pour l'Ukraine, notamment un renforcement de la présence des alliés en mer et dans les airs. Alors depuis vendredi, Donald Trump a quand même répété que les États-Unis seraient partis prenante de ces garanties de sécurité. C'est une nouveauté, mais il ne précise pas vraiment quelle forme cela prendrait. Il reste très flou, évoque une forme d'engagement similaire à l'article 5 de l'OTAN de défense mutuelle sans vouloir faire intégrer l'Ukraine à ce traité. Donald Trump reste aussi très vague sur ce qu'il attend de Moscou. Il n'a par exemple évoqué aucune menace de sanctions jusqu'ici.
Alors on l'a compris, difficile à l'issue de cette journée de préjuger de la suite des négociations. Cette rencontre dans le bureau ovale, même dans un format inédit, ressemble davantage à un premier échauffement pour renforcer la pression occidentale sur la Russie au profit de l'Ukraine. La coalition dite des volontaires alliés de Kiev a d'ailleurs décidé de se réunir en ce moment même avant un conseil européen prévu dans la foulée. Il faut dire que si les 27 veulent continuer à avoir voix au chapitre, ils vont devoir intensifier leur soutien sans la moindre ambiguïté. Ce qui supposera de prendre plus de risques, et notamment géopolitiques, dans la confrontation avec Vladimir Poutine, sans compter l'axe Milota que les Européens devront aussi inexorablement mettre la main au porte-monnaie pour assurer la sécurité de l'Ukraine.
Le président ukrainien souhaite une protection au sol, dans les airs et en mer pour son pays. Hier, à Washington, il a été longuement question de ces garanties de sécurité, les Européens demandant aux États-Unis de s'impliquer dans ces mesures. Donald Trump a acquiescé, il écrit sur son réseau social « Ces garanties seraient fournies par les divers pays européens en coordination avec les États-Unis ». Mais aucun détail n'a été révélé pour l'instant sur la forme que prendrait cette coordination, troupes au sol, renseignements militaires. L'armée ukrainienne devra continuer à être robuste, dit pour sa part le président français. Pas de limitation en nombre, en capacité, en armement, précise Emmanuel Macron. Le président ukrainien propose que son pays achète pour 77 milliards d'euros d'armes aux États-Unis. Leur achat serait en partie assuré par un soutien financier européen. Les détails seront connus d'ici une semaine à 10 jours, dit Volodymyr Zelensky. Il est aussi question de mettre en place une sorte d'article 5 de l'OTAN pour l'Ukraine. Si un pays membre est attaqué, il est automatiquement défendu par ses alliés. Mais la mesure s'appliquerait en dehors du cadre de l'Alliance Atlantique.
Le mouvement islamiste Hamas a annoncé hier avoir accepté une nouvelle proposition des médiateurs Égypte, Qatar, États-Unis sur une trêve de 60 jours avec Israël dans la bande de Gaza, associée à une libération d'otages retenus dans le territoire palestinien. La balle est donc désormais dans le camp de l'État hébreu, plus exactement du Premier ministre Benjamin Netanyahou, lequel n'a pas encore jugé bon de faire de commentaires. Pour quelle raison ? Bien que soumis à des pressions de plus en plus fortes, que ce soit de la part de l'opinion publique qui craint pour le sort des derniers captifs, comme de la communauté internationale qui appelle à mettre fin aux souffrances innommables des Gazaouis, eh bien le chef du gouvernement a-t-il seulement intérêt à accepter un tel accord ? Élément de réponse avec Valérie Crovin.
Il l'a répété ces deux dernières semaines, Benjamin Netanyahou ne veut pas d'un accord partiel avec le Hamas, mais une libération de tous les otages retenus à Gaza. Or, la proposition des médiateurs qui reprend les grandes lignes de celle présentée en juillet dernier par l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, prévoit une trêve de 60 jours contre la remise de 10 otages vivants et de dépouilles de captifs décédés. Les otages restants seraient libérés dans un second temps, dans le cadre d'un accord plus large. Des exigences que le Premier ministre israélien refuse. Il n'acceptera de mettre fin à la guerre qu'à condition que le Hamas libère tous les otages d'un seul coup et que le mouvement islamiste palestinien accepte d'être désarmé. Face à lui, une grande partie de la population israélienne, excédée, réclame à cor et à cri le retour immédiat des derniers otages de Gaza, comme elle l'a fait encore dimanche. Benjamin Netanyahou doit calculer les risques, mécontenter encore un peu plus son opinion publique, ou l'aile la plus à droite de son cabinet, incarnée par Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Les deux ministres jusqu'au boutistes, partisans d'une ligne anti-compromis avec le Hamas, menacent à nouveau de démissionner si Benjamin Netanyahou accepte un accord partiel. Pour l'instant, ce dernier temporise, il fera connaître sa réponse d'ici la fin de la semaine.
En Serbie, plusieurs milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans les rues de Belgrade la nuit dernière. De son côté, le président rejette toujours les appels à des élections anticipées et dénonce les rassemblements anticorruption comme faisant partie d'un complot étranger visant à le renverser, quitte à jouer la carte de la violence et de la répression. Premier ouragan de la saison en Atlantique Nord, Erin s'est très rapidement renforcé jusqu'à être classé en catégorie 4 sur une échelle de 5, accompagné de puissantes rafales de vent et de pluies intenses. Il évolue actuellement dans les Caraïbes. Il doit opérer aujourd'hui un virage pour ensuite passer entre la côte est des États-Unis et les Bermudes. Le dernier bilan des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Pakistan la semaine dernière s'élève désormais à près de 400 morts, sans compter les disparus. À la lueur de leur téléphone portable et muni d'une pelle ou d'un simple marteau à la main, les villageois du nord du pays fouillent encore ce qui reste de leur maison, écrasée sous les rochers, la boue charriée par la mousson pour tenter de sauver leurs proches. Enfin, sur l'ensemble de la péninsule ibérique, là-bas, l'ampleur de la dévastation se mesure désormais en dizaines de milliers d'hectares. Depuis deux semaines, la catastrophe ne cesse d'empirer dans la région, ravagée par les flammes. Alors faut-il en déduire une possible impréparation globale face à la férocité de ces incendies considérés comme prévisibles par tous les experts et qui n'ont manifestement pas été anticipés. Seule certitude, la prévention des feux de forêt en Espagne notamment n'a jamais été si négligée, avec une baisse de 26% de budget ces 15 dernières années. Quand le fabricant de cœurs artificiels, Carmat, retient son souffle, c'est aujourd'hui que le tribunal de Versailles doit se prononcer sur l'unique offre de reprise déposée pour sauver ce fleuron français de l'innovation médicale en redressement judiciaire. Une chose est sûre, la BPI, la Banque publique d'investissement, ne remettra pas au pot. 138 salariés au total sont aujourd'hui dans l'expectative, sans compter bien entendu tous les malades dans l'attente d'une transplantation. Annabelle Grelier a joint Patrick Boitelet, il souffre d'insuffisance cardiaque sévère.
Moi, ce que je vois, c'est la prouesse technologique. Voilà, la prouesse de ces gens qui ont inventé cette prothèse totale. Bien sûr que ça a changé ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, je suis à 95% autonome. Quand je vois ce que j'étais, quand je vois ce que je suis maintenant avec la prothèse, je pense que ça pourrait étonner certains politiques, voilà, de dire le résultat. Hein. Je ne veux pas rentrer justement dans tout ce qui est financier autour de l'entreprise, parce que bon, moi je ne sais pas ce qui se passe, mais au niveau de la technologie et de la prothèse, je suis 100% avec eux. Voilà. Quand j'entends la BPI dire ben non, nous on ne prêtera plus d'argent à Carmat, j'ai un peu de mal à comprendre ces gens. Voilà. Je me dis, est-ce que demain ils y croiraient toujours pas si on disait ben, monsieur c'est ça ou c'est fini, comme moi ils sont venus me dire au bout de mon lit là, en me disant monsieur Boitelet, il faut dire au revoir à votre dame. Vous voyez, moi j'avais refusé la prothèse hein, parce que j'étais tellement fatigué au bout, j'ai dit j'arrête et je me laissais mourir. Franchement, heureusement que j'ai accepté. Je ne savais plus marcher, je ne savais plus écrire, je ne savais plus porter mon téléphone, je n'avais plus aucune force. J'avais perdu 30 kilos. Vous savez, moi, j'étais en centre de rééducation, nous étions trois carmates, hein, trois personnes appareillées. Hein, et à l'heure d'aujourd'hui, on est tous en vie. Je me dis, mais comment on peut balayer un revers de la main voilà, qu'est-ce qu'on attend que ça parte encore à l'étranger et qu'on dise, ben, encore un bleu, blanc, rouge qui s'en va, qui part à l'étranger, qui part à l'export. C'est quand même dommage. Mais nous, mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous?
Un témoignage recueilli par Annabelle Grelier. En métropole, le chemin du retour sur les bancs de l'école se fera le 1er septembre, ce qui n'empêche pas déjà certains préparatifs, à commencer par le rituel de l'achat des fournitures scolaires. Et pour cela, beaucoup attendaient le versement de l'allocation de rentrée accordée à partir d'aujourd'hui à près de 3 millions de familles sous conditions de ressources. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Depuis quelques années, on le sait, les achats de rentrée scolaire se concentrent après le versement de cette fameuse allocation, signe évidemment que le budget des familles reste extrêmement serré. Eh bien, une bonne nouvelle, cette année, Hakim, le prix des fournitures a diminué.
Oui, selon le baromètre de Famille de France, cette année, le panier moyen s'élève à 211 € contre 223 € en 2024, soit une baisse de 5,5%, ce qui s'explique par la baisse des prix dans l'ensemble des circuits de distribution, avec un recul dans les hypermarchés de 8% et de près de 3% dans les supermarchés, idem dans les magasins spécialisés, où là, on constate une baisse de 4,7%. Alors, si l'année dernière, les articles de papeterie étaient ceux qui avaient le plus baissé, cette année, ce sont ceux de sport qui enregistrent le plus fort recul. Pour autant, la prudence reste de mise, car il y a toujours de la précarité, estime Grégoire Ancel, le vice-président de la FCPE, première fédération de parents d'élèves.
Il ne faut pas oublier qu'on a quasiment 22% des enfants qui vivent en dessous le seuil de pauvreté. On a également des indicateurs de précarité qui se sont fortement inflammés ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc on est encore dans un contexte économique extrêmement tendu pour les familles et il ne faut absolument pas sous-estimer le coût de la scolarité. Un dernier chiffre, la scolarité en moyenne pour un enfant, c'est 1 800 €. Quand on compte tout ce qu'il faut en périscolaire, en fourniture scolaire, en transport, toutes les dépenses mises bout à bout pour assurer la scolarité d'un enfant tout au long de l'année. Donc ce sont des coûts extrêmement importants.
Enfin, le réemploi des fournitures scolaires est aussi l'une des solutions pour faire baisser la facture à la rentrée. En effet, d'après le site dédié mis en place par le gouvernement, il permettrait de réaliser jusqu'à 35% d'économies.
Merci à Kim Kasmi. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par des précipitations qui s'étendront aux deux tiers sud et au centre-est du pays, épargnant les régions au nord de la Seine. Les départements de l'Hérault, du Gard et de la Lozère ont été placés en vigilance orange pour orage et pluie, inondation. Quant aux températures, l'épisode caniculaire a pris fin ce matin après 11 jours d'une vague de chaleur écrasante sur la quasi-totalité du territoire. Le thermomètre affichera entre 20 et 30 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Julien Loquet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Mathieu Laurent pour le prochain journal de la rédaction.